Pour parler d'Omnicanal avec nous, j'ai Benjamin qui nous vient de Digital Native Group et qui va échanger avec nous sur ces sujets-là. Je fais les présentations très rapides parce que je veux rentrer vite dans le vif du sujet. Véronica, qui est en charge du CRM et du Digital Marketing chez Bash. Et enfin, Kevin, qui est en charge des partenariats chez OneStock. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de creuser un petit peu ce que ça veut dire que l'omnicanal. C'est une problématique qui n'a fait globalement qu'augmenter dans les dernières années. On voit, je pense, un vrai changement qui s'est fait en particulier dans les 5 dernières années sur ces problématiques. On arrive à plus de maturité sur le marché. Et on arrive, je pense, depuis en particulier 3 ans, à un vrai carrefour. Pourquoi ? Parce que ça fait une vingtaine d'années qu'on voit la part du e-commerce augmenter, la part du e-commerce dans les achats des Français augmenter. En revanche, globalement, depuis 3 ans, elle se stabilise. Elle se stabilise et on imagine qu'on arrive vraiment donc, à une phase de maturité dans le marché où on a des usages qui se font en ligne, des usages qui se font en magasin. Et maintenant, la question, c'est de se demander comment est-ce qu'on coordonne correctement les deux. On va en parler un petit peu plus en détail, mais c'est aussi un moyen d'améliorer son chiffre d'affaires et en particulier la LTV de nos clients. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui de proposer des expériences qui soient les plus omnicanales possibles. Globalement, ce que moi je vois d'intéressant aussi, et on va le creuser, c'est qu'il y a des marques qui viennent à l'origine du digital qui ont naturellement passé un tournant omnicanal, mais qu'aujourd'hui, des entreprises beaucoup plus brick and mortar sont en train aussi de faire le chemin de l'autre côté, et souvent en appliquant des stratégies qui sont assez différentes. Et le croisement entre les deux, c'est aussi peut-être ça, la recette du succès pour une stratégie omnicanale gagnante. On va essayer de creuser ça du coup dans les prochaines minutes, avec un petit peu d'eau. Et on va se demander, qu'est-ce qui sera la vraie bonne solution dans les prochaines années pour développer une stratégie efficace. Alors peut-être qu'avant de commencer à se projeter dans l'avenir, on va se demander un petit peu aussi d'où on vient. Et ma première question pour vous, ce serait de savoir si aujourd'hui c'est plus simple de devenir une marque omnicanale qu'il y a 5 ans. Et peut-être, alors comme Ben, tu nous sers un petit peu d'eau, je vais peut-être commencer par Véronica. Est-ce que tu as des éléments à nous raconter là-dessus ?
Oui, alors est-ce que c'est plus simple aujourd'hui d'être omnicanal par rapport à il y a 5 ans ? Je dirais oui. Nous, il y a 3 éléments qui ont été clés pour devenir omnicanal et on a vraiment vu une transition sur ces 4 dernières années avec une accélération pendant et après Covid. Le premier élément qui nous permet en fait à devenir omnicanal, c'est la donnée. Nous, il y a 5 ans, chez Bash, on avait vraiment 2 bases de données totalement distinctes. On n'était même pas capable d'identifier un client omnicanal qui achetait et sur le retail et sur le web. Donc ça, c'était la première étape. Et en fait, quand on a réussi à unifier toute la base de données, il y a eu un constat qui était sans appel, c'est qu'un client omnicanal, ça pèse beaucoup quand même dans le chiffre d'affaires. Pour vous donner des chiffres récents, sur Q1 2024, la LTV de nos clients omnicanaux est plus 84% supérieure à la LTV normale, enfin d'un client monocanal. Donc ça a été le premier élément qui nous a permis en fait d'accélérer l'omnicanalité chez Bash. Pourquoi c'est plus simple aussi, c'est qu'on a des mindsets qui ont changé. D'un point de vue client, mais surtout dans les équipes. Les équipes étaient vraiment silotées à mon arrivée chez Bash il y a 6 ans. Il y avait vraiment une équipe retail et une équipe e-commerce. Et pour en fait avoir certains use cases qu'on appelait omnicanaux, c'était compliqué parce que les responsables magasins ou toutes les équipes magasins avaient vraiment pour objectif de répondre à leurs objectifs qui étaient du coup uniquement retail et d'aller faire du chiffre d'affaires incrémental pour la société n'était pas du chiffre incrémental sur leur périmètre. Donc c'était assez compliqué en termes de discours en interne et elles ne voyaient pas forcément la valeur ajoutée. Et avec le Covid, elles ont changé totalement de mindset, même si on avait commencé à essayer de les sensibiliser au sujet. Il n'était plus question en fait de défendre leur périmètre, mais il était question de défendre la marque, et notamment sur une période qui a été très dure pour tout le monde, le Covid, il fallait en fait sécuriser la marque à moyen et long terme. Donc elles ont commencé à devenir omnicanal et changer du coup le mindset. Et le troisième élément, c'est qu'aujourd'hui on a aussi des outils qui sont quand même mis à disposition pour le siège et pour les équipes magasins.
Kevin, tu veux rajouter quelque chose sur le sujet
ouais,
des outils?
Quand on parle des outils, effectivement. Donc voilà, nous on travaille effectivement avec Bash depuis quelques années. Donc pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, OneStock, donc nous on est un OMS, OMS pour Order Management System. Le principe, c'est effectivement qu'on accompagne des marques et des retailers comme Bash dans justement cette unification à la fois de la donnée et des stocks. Avec effectivement voilà, l'enjeu d'être en mesure d'identifier un client, quel que soit d'où il vient, être en mesure effectivement de savoir est-ce que c'est un client VIP, quel est son historique, etc. Et potentiellement proposer des scénarios omnicanaux qui vont être aussi adaptés à l'ensemble des clients. Donc voilà, le rôle d'un OMS, c'est vraiment ça, hein, c'est unifier la donnée, aussi bien client que stock, avoir cette vue unifiée de son stock qui est effectivement... hyper important quand aujourd'hui on vend à la fois via des marketplaces, via du e-commerce, via des magasins, être en mesure de savoir où sont nos stocks aussi bien à l'instant T que des futurs stocks, que des stocks qui peuvent venir également de suppliers, de distributeurs. Voilà, c'est un élément qui est clé parce que ça permet aussi d'orchestrer au mieux ses commandes. Ça veut dire que potentiellement une commande en fonction de sa source, en fonction du panier, enfin des produits qu'on va retrouver dedans, en fonction de son adresse de livraison, etc., on va plutôt l'envoyer à un point de stock ou à un autre. Voilà. Il y a aussi cette notion d'optimisation après de toute l'efficience opérationnelle. Donc ça, c'est vraiment le rôle clé de l'OMS. Alors, il y a d'autres outils qui jouent ce rôle-là. Je pense que voilà, sur la partie paiement, l'omnicanalité, c'est aussi un élément clé. Mais voilà, le rôle de l'OMS, c'est effectivement cette unification de la donnée et des stocks d'une manière générale. Ouais.
Ben, est-ce que tu as peut-être des éléments, toi tu vois des changements dans la maturité des clients qui viennent vous voir ces cinq dernières années sur le sujet d'omnicanal,
pardon. Ouais, alors je dirais que tout le monde veut faire de l'omnicanal et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous deux. Je dirais oui, c'est plus facile aujourd'hui parce que les technos sont là et les use cases sont là. En revanche, niveau culturel, dans la plupart des entreprises aujourd'hui, on a une vraie différenciation entre le retail qui vit d'un côté et le digital qui vit de l'autre. Pardon ? Non, on n'y est pas encore. Ouais.
J'ai pas dit l'inverse. Il y a une vraie notion de change qui est hyper importante, je suis 100% d'accord. Et c'est le rôle aussi des cabinets de conseil d'accompagner, effectivement. Ouais.
L'avantage que vous avez, c'est que vous avez une direction unifiée, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises. La mode est plus en avance sur l'omnicanal que plein d'autres secteurs d'activité. Je pense que les taux de chiffre d'affaires en omnicanal sont plus élevés largement sur toute la partie fashion. Si on prend de la cosmétique, du bricolage, de la food, on est vraiment très très loin. Aujourd'hui, il y a encore une guerre dans pas mal de boîtes entre la direction retail et la direction digitale, qui en général n'ont pas le même boss. Donc en plus, c'est une question de... comme on aligne tout le monde et on est obligé de remonter jusqu'au CEO ou au CEO pour changer l'organisation et la structure, notamment de la reconnaissance de revenus, des primes, des objectifs, qui sont des vrais sujets. Et aujourd'hui, effectivement, créer une roadmap omnicanal, c'est beaucoup plus simple que ça ne l'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on découvrait un peu, on bricolait, c'était plus du test and learn permanent. Aujourd'hui, la roadmap, on l'a. La réalité, c'est quand on arrive entre guillemets, quand on a connecté les tuyaux et qu'on a les flux, on a des problématiques, les vendeurs en boutique, les patrons de magasins, les directeurs régionaux, les directeurs de retail par zone, le digital et une grande guerre entre tout le monde. Et en général, on y va un peu en force en se disant ça va passer, ça passe jamais, dans à peu près toutes les entreprises que j'ai vues. Et le sujet aujourd'hui, c'est plus une question de techno qui était le sujet il y a 5 ans, c'est une question de culture et de mindset des entreprises, de faire qu'on ne travaille plus pour le P&L retail, on travaille pour un P&L global. Nous, on passe notre vie dans les comex à expliquer qu'il faut un P&L global et puis des P&L segmentés. Et comme tu le disais, en gros, un client omnicanal, on le voit à peu près partout, c'est entre 75% et 125% de LTV supplémentaire. Donc, il y a un vrai enjeu pour les entreprises, pas forcément sur le chiffre d'affaires, mais plutôt sur la rentabilité de l'entreprise. Et je pense qu'on est tous collégialement dans une idée de créer plus de rentabilité dans les boîtes et pas forcément d'aller chercher de la top line. Donc je pense qu'il y a, toujours ce frein que personne, enfin que personne n'a réussi à craquer, que les nouveaux entrants sur l'omnicanal n'arrivent pas à craquer comme il y a 5 ans.
Aujourd'hui, si on veut se lancer dans l'omnicanal, selon vous, c'est quoi les bonnes questions qu'il faut se poser pour faire en sorte que la mise en place d'une stratégie de ce type puisse bien se passer? C'est-à-dire, globalement, avant de se lancer dans l'inconnu, c'est quoi peut-être les 2-3 premiers éléments qu'il faut absolument que vous ayez balayés? Peut-être Ben, si tu veux commencer cette fois-ci.
Ouais, c'est marrant parce que je viens de finir une mission comme ça et on a structuré la mission en 3 points. Un, quelle est la vision client? La première chose qu'on s'est posée comme question pour notre client à nous, c'était quelle était sa vision du client final, quels étaient les besoins du client final. Aujourd'hui, l'omnicanalité, ça recouvre un scope très 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 large. On peut cocher des cases. La plupart du temps, c'est inutile de causer des cases. C'est plus une question de quoi ont besoin en réalité les clients. Donc, scoper à peu près la vision de l'omnicanal du client. Qu'est-ce qu'il attend de la part de la marque? Le deuxième sujet, ça a été effectivement des questions de tuyaux et de flux. Comment on structure, quelle est la bonne stack technologique, comment est-ce qu'on va structurer en magasin. La vision avec notre client, c'est de, à terme, pouvoir abandonner les caisses pour avoir exactement comme dont on parlait tout à l'heure, du paiement tap-to-pay depuis le mobile vers une tablette ou vers un autre mobile pour pouvoir économiser l'espace de la caisse, créer plus de rentabilité dans les magasins. Donc ça nous a emmené troisièmement sur 2 choses. Un, est-ce que les boutiques en tant que telles sont conçues pour pouvoir faire du ship from store? Quelle boutique n'est pas faite pour faire du ship from store? Laquelle est faite pour faire du ship from store? Est-ce qu'on peut faire du click and collect? Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas le nombre de personnes en magasin pour être capable de gérer des flux click and collect. L'e-réservation, c'est très bien, mais à un moment, on n'encaisse pas tout l'argent, donc on a du stock bloqué. Comment est-ce qu'on pense la chose? Et enfin, et c'est là où on achappe toujours, c'est pour ça qu'on met à la fin de l'émission, est-ce qu'on a une vision PNL omnicanal ou est-ce qu'on a encore des visions de PNL qui sont séparées? Comment, globalement, par zone géographique, à qui appartient un client? Est-ce qu'on est toujours dans une logique où le client, c'est un client magasin, c'est un client régional ou c'est un client du digital? Comment on répartit les reconnaissances de revenus? Comment on répartit les primes? Donc c'est un peu comme ça qu'on structure toutes nos missions omnicanal. Et quelque part, là où il y a 5 ans, la problématique, c'était plus comment on connecte les flux. Je ne sais pas si vous avez fait de l'omnicanal il y a 5 ans, mais c'était assez archaïque comme façon de faire. Aujourd'hui, on a des technologies qui permettent de répondre à ces problèmes-là, dont le coût est de moins en moins cher d'ailleurs. Et c'est un gros avantage, j'ai moins besoin de CAPEX qu'avant. Et qui nous permet en réalité d'aller très vite sur cette aide au choix d'outils et trouver les bons outils qui dépendent de la taille de l'entreprise. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse sur quels sont les bons outils. Ça dépend de la taille de l'entreprise et du besoin réel que les clients ont en réalité.
Véronica, tu veux développer peut-être sur l'expérience que toi, tu as eue de déploiement sur l'omnicanal?
Alors, du coup, je rejoins sur les 3 questions, enfin les 3 points à souligner. C'est vraiment le prisme client, tout ce qui est organisationnel. Comme je vous le disais, d'un point de vue de l'entreprise, c'est assez clair pourquoi faire de l'omnicanal, le pourquoi, il n'est pas à discuter. En revanche, il faut vraiment comprendre quelle valeur ajoutée on va apporter au client et garder ce prisme-là et pas penser que top line, sinon on risque de se planter. Donc l'objectif, c'est vraiment de proposer une expérience fluide, sans couture, de plus en plus rapide. Donc nous, c'était dans cet objectif-là on l'a poussé et que ça peut être périn. Après, on a dû se poser la question, est-ce qu'on était prêt? Il y avait plein de choses qui peuvent être assez compliquées au lancement. C'est comme le mentionnait Benjamin, est-ce que dans les boutiques, on est capable de préparer les... Enfin, est-ce qu'on a déjà les équipes de la bande passante? Est-ce qu'on a du coup le stockage, que ce soit et pour les produits et pour préparer les commandes? Et je ne sais plus si je l'ai mentionné, la bande passante dans la journée. Nos équipes magasins, elles avaient déjà un planning rempli avant l'omnicanalité. Là, on est venu leur rajouter une tâche. On n'est pas venu la remplacer, on est venu leur rajouter une tâche. Donc, c'est une question de priorisation, d'arbitrage. Donc nous, on a différentes solutions omnicanal lancées selon les pays, selon les boutiques et selon les périodes. Donc on a de l'order in store, du ship from store, à date. Et ce n'est pas déployé partout parce qu'on n'a pas la capacité. Donc vraiment, on priorise, malgré que le fait que ce n'est pas lancé partout. Le Ship From Store, aujourd'hui, c'est un tiers de notre CA e-commerce sur Q1. Donc c'est énorme. Donc on a quand même réussi en fait, à dépasser ce frein-là, mais il y a quand même encore une question d'arbitrage, de réussir à l'incorporer dans les tâches sans que ça crée des points de friction en magasin. On a une petite anecdote sur justement le Ship From Store. C'est Dan, un de nos CEO, qui est allé en magasin pour aller chercher une pièce pour son entourage. Il a attendu une demi-heure en magasin avant que la vendeuse, qui ne savait pas de qui il s'agissait, il n'a pas du tout voulu la stresser ni la perturber, mais pendant 30 minutes, elle l'a laissée dans la boutique parce qu'elle était en train de préparer des commandes qui devaient partir des boutiques. C'est, donc, en fait, on essaye de fluidifier l'expérience client. Il faut faire vraiment attention un peu aux effets de bord. Donc, il y a vraiment un arbitrage qu'il y a à mettre en place et des règles de priorisation. Nous, ça crée un poste chez Bash. Donc, on a une coordinatrice retail et omnicanal qui, en fait, justement, gère toutes ces règles de priorisation qui accompagnent les magasins. Mais après, il y a aussi le côté humain au quotidien où les vendeuses, il faut qu'elles soient capables d'arbitrer elles-mêmes selon le flux dans le magasin et tout en répondant aux objectifs qu'on leur a fixés.
Il y a
eu un sujet, oui, de formation.
Il y a un sujet,
un gros sujet RH. Donc, Benjamin mentionnait toute la partie du coup rémunération qui a été un gros sujet chez nous. Et on ne va pas se mentir, c'était le premier point de friction. Quand on leur demandait d'aller faire du CA, sachant qu'elles ont toutes des bonus ou elles ont des commissions sur le CA qu'elles génèrent, elles n'avaient aucun intérêt en fait à faire du CA pour l'e-com. Il y a des primes quali, il y a des primes quanti, donc il y a eu quanti sur OMS, après c'est pas à 100%, il y a des calculs de 50-50, donc tout ça, ça a été mis en place et je pense que ça a du coup aidé forcément à ce que les vendeuses jouent le jeu, mais c'est aussi tout un autre métier, enfin, une personne qui prépare des colis, c'est pas la même chose qu'une personne qui va en fait parler de la marque, qui va parler des valeurs, qui va pousser les caractéristiques d'un produit. Donc, c'est tout un métier qui change. Et donc, il y a beaucoup de sujets RH là-dessus. Après, c'est moins un mois au quotidien là-dessus. Mais c'était une vraie transition, en tout cas, et qui ne s'est pas faite d'un coup. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement au quotidien. Et dans les points de friction... Il y a aussi au siège, donc on en a parlé, magasin, expérience client, mais au siège, nous on a toujours malheureusement deux PNL, un PNL e-com et un PNL retail, mais on a quand même une organisation qui change. Donc il y a un poste qui s'est créé il y a 2-3 ans avec l'arrivée aussi de One Stock et justement de toutes ces nouvelles routines. Mais il y a certains services qui étaient beaucoup plus sensibles à l'omnicanalité, il y en a encore qui ne le sont pas, et le PNL reste quand même... la référence de tous. Donc, il y a quand même un changement qui est enclenché chez Bash. Donc, on a une organisation omnicanale qui est en train doucement de se mettre en place. Maintenant, on a une responsable business qui a vraiment le retail, le e-com et le wholesale.
La direction unifiée dont vous parliez tout à l'heure, c'est quoi, donc c'est cette personne.
Cette personne.
Qui a donc le e-com et le retail.
Et le wholesale. Donc, elle est vraiment à tout.
Elle a aussi une boussole.
Et donc maintenant, on est tous beaucoup plus sensibles. Après, il y a des services qui sont beaucoup plus sensibles. Moi, mon service, depuis le début, on est sur le prisme client. Donc en fait, on est obligé de penser omnicanal. Mais typiquement, l'e-com, il y a eu quand même deux niveaux sur l'omnicanalité. Je trouve qu'on est beaucoup plus avancé sur l'omnicanalité sur le retail avec justement le ship from store, l'order in store. Mais sur le site, il y a... C'est en train de se mettre en place, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait aucune notion en fait du retail. Il n'y avait pas forcément accès au stock, il n'y avait pas de store locator. Donc tout ça, on est en train de le mettre en place. Et c'est aussi grâce à cette direction en fait unifiée, on priorise vraiment l'expérience client plutôt qu'un canal à l'instar de l'autre.
Je peux une petite anecdote. J'ai un client qui avait tout fait bien pour mettre en place l'omnicanal et qui nous a demandé de comprendre pourquoi il n'avait pas d'incrément, quasiment pas d'incrémental. Et globalement, on avait des directeurs régionaux qui disaient à leurs vendeurs et leurs vendeuses au magasin d'annuler les commandes de Click and Collect en disant que finalement, il n'y avait plus le stock pour les repasser en local. Et les directeurs digitaux qui cachaient les boutons réservés en boutique, Click and Collect tout en bas de la page pour être sûr que ça ne marche pas, puisque c'était leur prime de fin d'année qui était cutée si... Il basculait pas de l'argent, donc c'est une vraie problématique culturelle de l'équipe.
Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, Véronica, vous avez commencé par quoi ? Tu disais que, par exemple, le Store Locator, c'était quelque chose que vous étiez en train de mettre en place seulement maintenant. Ça a été quoi les premiers projets que vous avez déployés ?
Dans l'omnicanalité, ça a été vraiment le retail. En fait, ça a été le retail. Où pendant le Covid, en fait, on a compris que le web a pris le relais. Et c'est aussi ça qui a peut-être enlevé certains freins, c'est qu'on a compris qu'on n'était pas l'un contre l'autre. Il y a eu des moments en fait de prise de relais. À un moment donné, ça a été le e-com pendant que tous nos magasins étaient fermés. Après, il y a eu le retail qui a quand même repris un gros regain. Donc, on a quand même priorisé tout ce qui était retail avec prise de rendez-vous en magasin, lancement du ship from store et order in store qui nous a permis quand même fait d'avoir accès à des stocks bien plus conséquents que ceux qu'on avait, parce qu'il y avait aussi une bataille des stocks. Le e-com, il pèse moins de 30%, donc il vaut mieux prioriser les stocks en magasin. Maintenant, en fait, les stocks sont quand même... On a accès à tous les stocks. Il n'y a plus de sujet sur le site. Vraiment, on a accès à tous les stocks du réseau. Et en magasin, il n'y a plus de sujet. Connectez-vous sur Internet, vous pourrez peut-être trouver la pièce. On peut la commander, la faire livrer directement chez la cliente. Ouais, order in store. Après, nous, il y a des choses qu'on n'a pas encore mis en place et pour l'instant, on pense pas que ça soit prioritaire comme la e-resa, parce que la e-resa, il y a beaucoup de no-show et ça bloque des stocks. Et le click and collect en termes de flux, on n'est pas encore, pas encore adapté. Non, pas encore et pas de e-resa.
Et pas de click and go.
Oui.
Pourquoi pas de click and collect?
En termes de flux, là, on a déjà besoin de maîtriser les flux existants pour préparer tout ce qui est commande, etc. Donc, le click and collect, ça va être lancé, mais ce n'était pas ce qui a été le plus prioritaire qu'on a dû.
Vous avez déjà retrouvé 150 colis
en
réserve.
Oui, en réserve.
Oui, avec 150 colis en réserve, enfin vraiment 150 colis. Ouais. 152, je crois que c'était.
Bah, nous, je sais pas,
de click and collect. Alors, heureusement, j'ai une très, très grande réserve dans la boutique du Marais, mais...
Vous êtes quelle
Maison Labiche.
Ok. Parce que, vous voyez du coup un peu les magasins Bash. Nous, on a plusieurs tailles de magasins, mais quand même, historiquement, c'est des petites boutiques.
Oui.
Donc, en fait, de faire du click and collect.
Je ne pourrais pas faire ça à Batignolles, c'est sûr que.
Ouais. Ça va être quelque chose qui va être mis en place, mais vraiment, on a priorisé du coup le order in store.
C'est sûr que avant, t'es obligé de.
Et côté e-com, là, ce qu'on a priorisé, c'est vraiment la visibilité des stocks, parce qu'en fait. Le site e-com, c'est pas juste un site e-com, c'est notre flagship. Donc en fait, autour de moi, j'ai ma belle-mère qui passe son temps à regarder sur le site Bash pour voir si telle robe elle est disponible en magasin pour aller voir la texture, aller l'essayer. Il y a encore des personnes qui ne vont pas acheter sur le e-com, mais qui utilisent l'e-com au quotidien. Donc ça va être mis en place.
Okay.
Mais c'était bloquant jusqu'à ce qu'on n'ait pas quelqu'un en fait, à la tête qui nous dise « Ok ». Enfin, on réfléchit parcours omnicanal et pas e-com vs retail.
Kevin, peut-être toi, ton expérience, est-ce que tu vois une uniformité dans ce par quoi commencent les retailers ou vraiment en fonction des problématiques, il va y avoir des modules qui vont passer avant les autres ?
Oui, je pense que le chemin de Bash, il est assez classique. Effectivement, c'est quand on commence à faire du ship from store, ça permet de venir unifier le stock. Donc, implémenter vraiment ce qu'on appelle le core OMS, donc la brique qui va permettre d'avoir cette vision de stock unifié, d'implémenter des règles métiers, qui est la première étape. Et après, effectivement, le ship from store qui permet de s'appuyer non pas uniquement sur le stock entrepôt, mais de s'appuyer également sur le stock magasin. Après, effectivement, c'est ce que tu décris très bien. Ça a des impacts à tous les niveaux, que ce soit en change. C'est pour ça que nous, on s'appuie aussi sur l'expertise de cabinets de conseil qui vont accompagner les clients pour leur expliquer un petit peu tous les tenants et les aboutissants. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'omnicanalité. Ça paraît un peu magique comme ça. On se dit, ah, c'est super, on va faire de l'omnicanalité. omnicanalité, on va avoir plus 25% de CA en ligne parce que justement on n'a plus de produits en rupture de stock, on va diminuer les coûts de transport, on va diminuer l'annulation de commandes. La réalité c'est qu'effectivement il y a un chemin et qui fait voilà, le ship from store c'est une première étape. L'order in store, pareil, c'est intéressant, mais c'est pas forcément fait, pas toujours en premier. On a plutôt des clients qui vont effectivement plutôt privilégier click and collect. Mais une fois de plus, ça dépend vraiment des contraintes physiques en magasin. Est-ce que j'ai suffisamment de vendeurs ou de vendeuses qui vont être capables de préparer dans les temps? Est-ce que j'ai une couverture qui est magasin qui est intéressante ou pas? Donc là, voilà, il y a plein de stratégies différentes. Mais oui, le core OMS, l'unification des stocks via le ship from store. Et après, effectivement, click and collect, voir order in store, voir e-réservation. Ouais.
On en a déjà un petit peu parlé, mais globalement, ce que je comprends dans ce qu'on vient de se dire là, c'est que l'un des enjeux principaux derrière le déploiement d'une stratégie omnicanale, c'est vraiment d'anticiper des problématiques d'efficacité opérationnelle. Et pas seulement se concentrer finalement sur l'outil, même si on est bien d'accord que c'est un point de friction. Est-ce que vous avez d'autres exemples, peut-être que vous avez envie de développer là-dessus ? On a déjà pas mal parlé, hein, mais...
Nous, on aime bien amener nos prospects ou futurs clients dans des magasins. On va faire des store tours et on leur montre effectivement voilà, comment ça se passe. Souvent en réserve, donc il y a un espace qui est dédié à la préparation des colis. Ça veut dire qu'il faut une imprimante aussi. Enfin voilà, je pense que ça permet aussi de se projeter, d'aller dans du concret et de se dire effectivement voilà, le ship from store, c'est compliqué d'aller préparer des colis sur le comptoir au milieu du magasin. Évidemment, on n'a pas envie de ça. Voilà, donc on aime bien faire ça. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller dans des magasins, voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, effectivement, se rendre compte, même en termes d'interface, on était à New York au début de l'année, là, à NRF, on est allé visiter des magasins. C'est toujours intéressant de voir, effectivement, comment les vendeurs et les vendeuses, parce que c'est un élément clé. On en a parlé plein de fois, hein, mais si eux ne jouent pas le jeu, en fait, toute la stratégie, évidemment, est mise à mal. On a besoin de ce personnel magasin.
Moi, je l'ai vu.
On est collé à la boutique des raffineurs dans le Marais. Ouais. Et j'avais voulu acheter un cadeau entre midi et deux. Donc, c'était une démarche personnelle. Mmh. Ils ont été tellement submergés de colis en click and collect. Il y en avait partout dans le magasin. Les équipes étaient paniqué, mais vraiment, genre, ça se voyait dans leur regard. Ouais. Enfin, moi, je suis head of retail, donc les équipes sur le terrain, enfin, je suis assez sensible à ça, du coup. Ouais. Et du coup, le responsable du magasin, je dis, je suis votre voisine et tout ça, j'ai un peu de peine pour moi. Et il m'a dit, là, en fait, on a appelé ce matin très tôt les équipes au siège pour qu'ils genre, ils arrêtent le click and collect parce qu'en fait, on est. Donc, je pense qu'ils étaient juste pas prêts.
Je sais pas ce qu'ils utilisent comme solution, mais typiquement, dans OneStock, dans OneStock, on va pouvoir mettre en place des capacités et c'est quelque chose qu'on va pouvoir piloter de façon assez agile. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on a des capacités par magasin, que ce soit en termes de préparation de colis ou que ce soit en termes de logistique, donc d'expédition. Ouais. Et donc effectivement, l'idée, on a même la possibilité d'avoir des plages horaires pendant lesquelles effectivement on ne va pas venir solliciter le magasin,
d'accord,
etc. Donc voilà, l'idée c'est aussi effectivement de pouvoir s'adapter. Et donc dans OneStock, il y a vraiment une gestion très fine, magasin par magasin, sur les horaires, les capacités. Si effectivement il y a un problème parce qu'on a un vendeur qui est absent un problème logistique, quoi que ce soit, on passe un coup de fil au siège et effectivement on va pouvoir désactiver, sortir le magasin de la logique click and collect et donc effectivement faire en sorte de ne pas se retrouver dans ce genre de situation.
Oui, bien sûr, c'est dans ça qu'on sent que c'est quand même encore très fragile et nouveau en termes d'orchestration logistique et que si ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si tu n'as pas ce socle extrêmement solide dès le départ, notamment avec une sensibilisation des équipes et des structures, enfin structurelles en magasin. Enfin, c'est extrêmement dommageable pour l'image de marque.
Et c'est aussi pour ça que nous, on a une personne en fait dédiée au siège là-dessus, parce qu'on a plus de 200 boutiques. Donc en fait, pour toute cette gestion, c'est hyper fort, mais il faut quand même quelqu'un qui orchestre du siège les actions.
Tu disais tout à l'heure quand on préparait Véronica qu'en plus vous avez des règles qui diffèrent pas mal en fonction de la typologie de magasin, de la structure de ces magasins-là aussi.
Donc en fait selon la taille du magasin, selon aussi la zone, parce qu'on est implanté à l'étranger, la période pendant les soldes typiquement, On est amené à désactiver quand même certaines briques de l'OMS parce qu'il y a beaucoup trop de flux client-magasin et on se concentre vraiment sur l'expérience client. Et on est prêt à mettre du coup potentiellement ce CA de côté. Après, on n'a pas parlé, mais nous, typiquement sur une zone comme les UK, d'avoir l'OMS, ça nous permet en tout cas en attendant d'être prêt, de contourner quand même tous les sujets douane avec le Brexit. Donc vraiment, entre chaque pays, période et zone et typologie de magasin et aussi staff magasin, parce qu'on peut avoir aussi des moments quand on est retailer, d'être en souffrance sur le personnel retail. Donc vraiment, c'est pas lisse, c'est vraiment arbitré selon en fait le planning opérationnel, marketing et pour régler toutes les règles. Gérer toutes les règles, pardon.
Ouais. L'aspect international, il est clé. Nous, on a des clients, je pense à un client comme Hackett London ou Pepe Jeans, qui expédiaient tout depuis l'Espagne. Au moment du Brexit, ils se retrouvaient avec 8 jours de délai de livraison, plus frais de douane, des frais de port qui ont explosé. Et en fait, le fait de pouvoir s'appuyer sur le stock en local, je parlais de New York aussi. Quand on va à New York, on peut aller voir les boutiques de nos clients, donc déjà Cadiz, Givenchy, Bâche d'ailleurs, je crois aussi. Et effectivement, l'idée, c'est de s'appuyer sur le stock local et donc de ne pas forcément avoir d'entrepôt, mais de se dire, voilà, j'ai ce stock magasin qui est disponible. Donc évidemment, ça, une fois de plus, nécessite d'avoir un magasin qui est adapté. Mais voilà, ça permet aussi de pouvoir s'appuyer sur ce stock. Et évidemment, c'est un vrai modèle gagnant-gagnant parce que le magasin aussi bénéficie de cette dynamique et des ventes qui peuvent être faites sur le territoire. Et ça permet finalement à la marque de ne pas avoir tous les aspects, soit de douane, soit d'entrepôt, de logistique, etc. Le but étant aussi, parce qu'on en parle assez peu pour ne pas faire trop de greenwashing, mais il y a aussi une volonté de faire en sorte que les produits voyagent le moins possible et donc soient au plus près du client final, voilà, avec aussi cette volonté de réduire les kilomètres que vont parcourir les colis.
Alors, on a parlé pas mal d'opérationnel. Là, j'ai envie de revenir un peu aussi aux clients, parce que vous avez toutes mentionné de prime abord que c'était quand même le cœur d'une stratégie. Tu m'avais dit, je crois, Véronica, qu'il y a une différence notable en termes de LTV entre un client omnicanal et un client e-commerce, ou en tout cas pure retail. Pourtant, dans nos échanges, quand on s'est préparé, on s'est aussi dit que c'était pas tellement le client qui était prescripteur d'innovation. Pourtant, au bout, c'est quand même c'est le client qui va utiliser toutes ces innovations, qui va générer le plus de business. Du coup, comment est-ce que vous gérez ces cycles d'innovation et qu'est-ce qui vous apporte à l'expérience du client ? Je ne sais pas qui veut commencer. C'est un grand projet.
Du coup, je dirais pas que, enfin, le client, en effet, client Micano, il est plus en contact avec des éléments assez innovants dans nos magasins, mais c'est pas qu'il est en attente de ces éléments, c'est qu'en fait, pour lui, c'est normal. Il vient vraiment, que ça soit sur le site ou retail, il veut son produit le plus rapidement possible. Il veut pas qu'il y ait de points de friction, de délai, de complications pour avoir accès aux informations du produit. Donc, c'est pour ça que le client omnicanal est en contact du coup avec toutes les solutions OMS qu'on a. C'est aussi lui qui va être en contact avec notre app de clienteling. Donc, c'est à nous en fait d'anticiper et de fluidifier cette expérience. Et c'est pour ça que lui, il est plus en contact, mais il est pas, je dirais pas qu'il est forcément demandeur. C'est vraiment des façons de consommer qui changent, de mindset et des barrières aussi qui se lèvent.
Mais si on se met à la place du client, c'est normal. Le client, il achète sur Amazon, il attend d'un site e-commerce la même performance que sur Amazon. Il achète chez Sephora, il se dit que c'est exactement pareil de monter pour une petite marque, une grande marque. En fait, aujourd'hui, on est dans une logique où on se dit, ils savent le faire. Tout le monde devrait savoir le faire. Le nombre de fois où j'ai entendu un client qui disait Google le fait, pourquoi on ne le fait pas ? On sait tous pourquoi, mais le client, il s'en fiche, ce n'est pas son problème. La convenience d'acheter chez des grandes marques et chez des grands distributeurs, aujourd'hui, c'est ça que les gens attendent. Donc, il n'y a pas une attente d'innovation de la part du client, parce que pour lui, l'innovation, c'est bien au-delà de ça. Je parle toujours d'une grande marque de luxe qui en Chine a changé son modèle d'affaires. Aujourd'hui, les boutiques, c'est un, c'est un Apple Store. Vous rentrez, il n'y a pas de caisse. Vous avez une vendeur ou une vendeuse ou un vendeur qui vient vous chercher à l'accueil, qui a sa petite tablette. Je sais pas. C'est une grande marque de luxe qui est un de nos clients et qui est pareil qu'Apple. Mais en Chine, ils ont complètement changé leur modèle d'affaires. Et aujourd'hui, ils ont quasiment plus de stock. Je crois qu'ils n'ont même plus d'entrepôt. Je crois que les entrepôts, c'est l'ensemble de leurs magasins. Ils font plus que du ship from store. Il n'y a plus d'entrepôt. Le site web, c'est un site web de commande en magasin, slash de livraison en moins de 2 heures depuis le magasin. C'est ça, en fait, ce vers quoi les gens veulent aller. Amazon a détruit le modèle économique du e-commerce parce qu'ils vous ont dit on peut vous livrer pour 0 € en moins de 2 heures n'importe où vous êtes dans Paris. Et aujourd'hui, les marques, enfin les clients qui achètent par ailleurs sur Amazon attendent ça de votre part. Et donc, c'est pas vous qui faites l'innovation, c'est les gros. Et globalement, ils ne suivent que ce qu'ils utilisent par ailleurs, quoi.
Et je pense qu'ils ont une attente de ne pas avoir de point de friction. Ils n'attendent pas, en fait, des choses révolutionnaires. Ils veulent juste, en fait, avoir leur produit.
Juste. Facile. Tu voulais rajouter quelque chose, Kevin ?
Non, je pense que c'est très bien résumé. Après, je pense que c'est aussi lié à la maturité du marché. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir un e-commerce avec une UX à peu près correcte, avoir des bonnes performances, etc. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller un petit peu plus loin, finalement proposer un service additionnel. Le contrôle du temps, c'est important, je pense. Ça fait partie des enjeux qu'on voit qu'on voit beaucoup maintenant. Au-delà du délai de livraison, je pense que le fait de savoir quand est-ce que je vais être livré, à quel moment, c'est un point qui est clé. Par rapport à ta question, je pense qu'il y a des attentes qui sont liées au fait qu'il y a un marché qui se nivelle vers le haut et que maintenant, c'est le petit extra mile, le service en plus, qui va permettre de se différencier de ses concurrents.
Et alors peut-être que, enfin, ce que je vois là, c'est des difficultés opérationnelles, même si elles peuvent permettre aussi de décrocher le gros lot. En tout cas, c'est pas forcément toujours très simple. Des clients qui sont hyper exigeants pour s'en sortir dans cette jungle. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que par exemple la data, c'est un moyen d'arriver à piloter efficacement ? Comment est-ce qu'on gère notre approche par la donnée dans ce genre de stratégie ?
Moi, je pense plus qu'on est sur des sujets de personnalisation de parcours, d'où l'importance du référentiel client unique dans les logiques omnicanal. Tu disais tout à l'heure que vous coupiez le click and collect pendant
non, le click and collect, on va le mettre en place. On coupe en tout cas ship from store. Ship from store.
Mais il y a des marques qui typiquement coupent le click and collect pendant Black Friday, pendant les peak season. Ce qu'on voit en termes d'efficacité et de gain au global sur la top line et la bottom line des clients qui ont une stratégie omnicanal personnalisée, c'est qu'au final, on présente des options d'omnicanalité en fonction de qui est en face de nous. Un prospect, on ne va pas lui pousser d'omnicanal. Il arrive sur le site, il vient voir un produit, on ne va pas lui proposer du click and collect, de l'IRS, machin, parce que globalement, les taux de conversion sont assez faibles sur ces gens-là. Et tout notre intérêt, en fait, c'est de convertir le plus vite possible. On a réussi à le faire venir 1, 2, 3 fois. L'objectif, c'est de lui vendre quelque chose. Et après, en fonction des personas qu'on a définis, en fonction de la segmentation client, on va venir lui pousser plutôt une problématique de click and collect, de click and go, de e-réservation, de visite en magasin, parce qu'il faut qu'on parle aussi de
mécanismes. De livraison gants blancs, de celle des delivery, ce genre de choses.
Et en fait, on ne propose pas la totalité des options à chaque client.
Ah ouais, mais c'est possible techniquement.
Ah bah, avec n'importe quel outil de personnalisation, ouais.
Ouais. Après, c'est un peu l'étape.
Donc, moi, par exemple, je vais sur le site de Bache, et si je suis une cliente méga VIP, on va me proposer donc la livraison en gants blancs. Non, mais je sais pas, je pose la question. Ou alors, si je suis une cliente, je suis une cliente.
Enfin, c'est vraiment pour nous l'étape 2. Enfin, nous, déjà techniquement, il fallait qu'on soit prêt côté solution omnicanal, notamment sur le site. Mais oui, en parallèle, on est en train de travailler toute la segmentation, les personas. Et l'objectif, c'est vraiment, dès que la personne est identifiée, d'avoir un parcours personnalisé. Et ça, on est capable, nous, de traquer selon les personas, comment ils fonctionnent, pour pas justement en fait lui donner trop d'informations non plus quand il est en magasin ou quand il est sur le site.
C'est quelque chose qu'on fait pour Givenchy, par exemple. La livraison gants blancs sous quelques heures, qui n'est pas proposée à tous les clients. Voilà, l'idée, c'est effectivement de se dire on a des clients pour lesquels on est prêt à investir, entre guillemets, mais tout comme dans la promotion, voilà, on pas envie de pousser les mêmes promotions à tous les clients. C'est exactement la même chose. Les parcours omnicanaux peuvent être aussi adaptés aux différents clients et au niveau de fidélité du client.
Et sur un sujet un peu plus opérationnel, mais c'est mon sujet du mois, nous, sur toutes les commandes en fait, Ship From Store, au vu en fait, des problématiques qu'on a de stockage, d'emballage, il y a un vrai sujet d'expérience quand on commande un produit qui est envoyé à partir des magasins. En termes d'expérience premium, on n'y est pas encore. Sachant que toutes nos lignes de budget sont déjà clôturées sur 2024 et qu'on ne va pas pouvoir faire un dépassement de budget, je suis sur une problématique de faire un arbitrage et de proposer du coup des packagings plus premium selon en fait le segment client ou en fait l'opération. Typiquement, si c'est les soldes, voilà. Mais du coup, on est sur cette problématique-là aussi en fait d'arbitrer même en magasin.
La commande, elle tombe. La cliente
VIP. C'est indiqué, du coup, l'équipe en magasin, elle voit le segment client et.
Ça marche.
C'est ma problématique, c'est ce que je vais essayer de mettre en place.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a délibérément choisi d'avoir les mêmes consignes d'emballage de notre e-commerce que dans le retail pour que le client n'y ait pas de déception en fait s'il commande sur le site. Et, parce qu'en boutique, les filles au début elles commençaient à m'emballer les trucs, le papier de soie, le pliage, machin, le parfum. On dit bah non en fait, parce que la prochaine fois que ça va venir de l'entrepôt, ça va venir dans un vieux polybag en fécule de pommes de terre. Et la cliente elle va être hyper déçue. Donc en fait, on a décidé de tout envoyer sous polybag, même des boutiques, même si pour nous c'est pas dans nos habitudes, tu vois, intrinsèques. Parce qu'on a décidé que ce soit justement une politique unifiée, parce qu'on n'a pas demandé à l'entrepôt de commencer à mettre du papier de soie. Donc,
Nous, en fait, on a du papier de soie à l'entrepôt.
Ah, d'accord. On a du coup,
c'est plutôt justement l'expérience est dégradée plutôt côté magasin qu'entrepôt.
D'accord.
On a déjà en fait investi sur tous nos emballages. Donc là, cette année, on ne va pas pouvoir unifier et premiumiser l'ensemble.
D'accord.
Donc on va plutôt être sur un arbitrage. Et aujourd'hui, typiquement, tout ce qui est ship from store en France, ça part dans un packaging qui est correct pour nous. Et tout ce qui est à l'étranger, c'est du coup dans polybag. Alors qu'il y a des bibs du coup au UK.
D'accord.
Qui reçoivent ça, on se dit en fait ça n'a pas de sens, donc on va en fait là essayer de faire un arbitrage en attendant pour rester dans les clous du budget.
Okay.
Et déjà améliorer l'expérience selon les segments clients.
Okay. Merci beaucoup.
Et après nous aussi juste il y a une autre petite problématique, il y a un petit point de friction, c'est que le ship from store, ça amène aussi que certaines clientes reçoivent en fait leurs commandes en plusieurs colis. Pour être sûr qu'elles reçoivent l'ensemble de leurs articles. Donc, c'est aussi expliquer aux clientes que leur commande n'est pas... Enfin, il n'y a pas un produit qui manque. Il y a aussi un discours aussi à avoir côté email automatique là-dessus.
Juste un mot là-dessus. Avec un OMS de type One Stock, il est quand même possible de limiter le split shipment. Donc, si
oui.
On veut effectivement faire en sorte que la commande ne soit envoyée que sur un seul colis, c'est possible, sauf effectivement dans des cas où on se dit qu'un produit est disponible que dans une boutique et donc il faut aller le chercher à cet endroit-là. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut aussi qu'on peut régler, ouais, tout à fait.
Je vois que c'est bien, je vois que les conversations se lancent. Il nous reste 5 petites minutes, donc je vous propose, si vous voulez, qu'on prenne, si jamais vous avez des questions. Moi, j'en ai d'autres, si vous voulez, mais je me dis que c'est peut-être aussi votre moment à vous, si jamais vous voulez. On a parlé pas mal on a parlé de data, on a parlé d'expérience client, on a parlé aussi d'expérience en magasin, d'opération. Ça rappelle aussi à des problématiques que vous avez. Est-ce que peut-être sinon vous voulez juste partager rapidement soit une expérience que vous avez vécue, peut-être pas une question, mais en tout cas qui vous a évoqué ça, des outils que vous utilisez, des ERP peut-être, que vous voulez partager avec l'audience.
Qui propose aujourd'hui une expérience omnicanal et pas multicanal? Oui, c'est faible. Et qui se pose la question de proposer une expérience omnicanal?
Tout le monde.
Ouais. D'accord. Ok.
c'est les retours dans le métier de la mode. On a beaucoup de retours. Et quand vous avez une cliente qui a commandé sur le web et qui vient faire un retour en magasin, et ben là, pour éduquer les équipes magasin à accepter le retour, c'est pas simple. Et en plus, ça ne se voit pas. Parce que bah, si on leur dit non, c'est pas possible. Bah, le client, en dehors de, d'un poste quelque part en disant c'est nul, ils sont nuls, vous n'avez aucun élément tangible pour dire le magasin a refusé le retour de Madame Machin. Quoi.
Le SAV en général, c'est un bon.
Oui, oui non, mais il y a le SAV, il y a le coup de téléphone, le poste, etc. Mais ouais, concrètement, on n'a aucun moyen de leur dire vous devez accepter le truc. Quoi.
Enfin, alors, nous. Oui, je n'ai pas mentionné mais aussi le chiffre, enfin le return in store. Nous, normalement, on est alerté, on est rapidement alerté s'il y a ce cas de figure-là. Et pour en fait aussi donner des arguments aux équipes de vente, c'est le trafic en magasin. Enfin, nous, sur ce début d'année 2024, on souffre d'un manque de trafic, un retour en magasin. Il n'y a pas forcément à première vue de valeur ajoutée, mais en fait si, ça crée en fait un point de contact et c'est leur force de vente. Chez Bache, on est connu pour l'expérience en magasin et on a quand même des super équipes retail, donc c'est vraiment en fait une occasion additionnelle de faire une vente et ça nous a permis quand même d'augmenter le trafic ou de venir pallier à des décroissances là-dessus.
Ça, c'est le remboursement, il se fait pour la boutique. C'est la boutique. Alors, qui rembourse.
J'ai pas envie de dire de bêtises là-dessus, je pourrais vérifier, revenir.
Parce que nous, les retours web, on les prend en magasin, je réintègre le stock dans les magasins, mais par contre, on a un flux d'emails qui part et c'est le web qui rembourse le client.
Pour le coup, avec OneStock, c'est quelque chose qui est entièrement configurable. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Après, okay. c'est une information qui est renvoyée à l'ERP et après, c'est l'ERP qui fait ça.
Parce que du coup, les boutiques, l'argument, c'est... Enfin, déjà, pour moi, il n'y a pas d'argument. Enfin, je veux dire, c'est les règles. Ça me paraît quand même... Je suis... Elle... Oui, non, mais c'est vrai. Est-ce que eux, du coup, ils...
Mais juste pour rebondir là-dessus, nous, ce qu'on constate chez nos clients, c'est quand même que ça crée de l'upsell. Retour en magasin, la création de trafic en magasin, c'est de l'upsell.
Oui, du trafic, et après, c'est aux équipes aussi
d'éduquer les clients.
D'appliquer leur force de vente. Et nous, ça nous crée quand même pas mal de trafic parce que les retours web, ils sont remboursés, alors qu'aujourd'hui, quand on vient rendre un produit qu'on a acheté en retail, il n'est pas remboursé. C'est un avantage.
Ah, alors que nous,
pour le moment, non.
Nous, on a changé nos politiques commerciales, nos conditions commerciales pour rembourser et avoir une politique unifiée de remboursement. Je sais que chez SMCP, ils ont fait ça aussi, parce que j'en ai discuté avec eux. Et ça facilite et ça fluidifie justement les retours en magasin, etc.
Et nous aussi, en fait, il y a pas mal de retours en magasin parce qu'on est en train de faire payer les retours, e-com. Ouais.
Ouais. Ouais, typiquement, quelque chose qui pourrait être proposé, le retour gratuit à une
cible,
à des clients VIP.
On les fait pas payer pour les meilleures clientes, mais c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Justement, on est en train de faire l'analyse. C'est vraiment en cours.
Et juste sur ces idées de retour en magasin, effectivement, c'est du change, ça prend un peu de temps. Mais quand on a ces boutiques en propre, on n'a pas trop de barrières. Nous, les cas où on voit qu'il y a un vrai sujet, c'est les modèles qui sont triples avec de la boutique en propre, de la succursale et du franchisé. Où là, effectivement, on rentre dans des entreprises qui ne sont pas les mêmes. Donc là, on commence à avoir des vrais soucis et des gens qui disent « non, je ne reprends pas le produit ». Donc il faut lister les boutiques dans lesquelles on prend le produit.
Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi paramétrer directement dans un OMS. Voilà. Avec les typologies de boutiques, c'est un franchisé, c'est un flagship, c'est un magasin centre-ville, etc.
Intégrer pas vos franchisés dans les OMS, c'est plus simple.
Pour le coup, nous, on a des clients franchisés.
Quand c'est 100%
ils veulent faire de l'omnicanal aussi. Donc voilà,
c'est...
On est sur Salesforce. Et moi, il y a, enfin nous, une nouvelle problématique, enfin problématique, un nouveau challenge qui est en train de se poser, et c'était aussi une barrière qu'on avait sur l'omnicanalité. Les exclusivités web, je me battais pour avoir des capsules ou des pièces, et en fait, dès que la pièce était bonne, le retail la voulait également. Mais aujourd'hui, avec justement tous ces flux sortants, entrants dans les magasins, on est en train de revoir un petit peu l'assortiment des magasins, le dispatch des stocks, et on est en train justement en fait, de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des pièces qui sont amenées à être uniquement sur le web, parce qu'on n'a ni la profondeur, l'argent en magasin, enfin la capacité en tout cas de les accueillir, et que vu qu'on a le order in store, et c'est du coup une bataille qui est en train de s'effacer petit à petit, et ça revient à rechallenger un petit peu ce point-là.
Si c'est une exclu web, on peut quand même faire de l'order in store sur une exclu web.
Oui, bien sûr. Et c'est en fait justement, il n'y a plus de frein. Et même, on est en train de réfléchir à, sur certains flagships, de quand même animer en fait ces exclusivités web, proposer des pièces complémentaires. Et typiquement sur les accessoires, enfin les accessoires, ça prend quand même de la place dans les réserves. Et si on veut avoir une offre quand même beaucoup plus complète, on a tout intérêt à la mettre sur le e-com, qui est notre vitrine, meilleure vitrine en tout cas, accessoire, parce qu'on est surtout du PAP aujourd'hui.
Mais c'est pas chiant d'avoir un produit qui n'est que sur le site, on le commande dans la boutique, et par exemple, on va le chercher dans sa boutique, et si la taille va pas, on ne peut pas changer parce que... Parce qu'en fait, le modèle, c'est une exclu web, donc il est que sur Internet, donc il n'est pas dans le stock de la boutique, je sais pas, c'est pas...
Bah, après, en termes de sizing, normalement, les vendeuses sont aptes à proposer justement, enfin, tout ce qui est order in store, elles sont censées, en tout cas dans leur cérémonial de vente, de quand même proposer à la cliente une alternative à essayer pour être sûre que le fitting est OK. Et nous, on va animer certaines exclusivités web, ça peut être des coloris, par exemple. On n'a pas intérêt à avoir tous les coloris dans un magasin et la pièce, elle existe dans une couleur carry-over noir ou marron. La cliente peut l'essayer. Nous, en tout cas, ça nous permet d'avoir plus de produits et tester des choses sans avoir forcément les freins magasin.
Mais deuxième question, si la cliente, la pièce ne lui convient pas,
donc la boutique se retrouve avec une pièce dans ses stocks qui, en fait, pour une exclu web...
Bah, order in store, ça ne veut pas forcément dire qu'elle doit le rendre en magasin. Elle a un choix, en fait, de D'accord. retour. C'est comme une commande e-commerce classique.
Mais comme elle va la chercher dans un magasin, en général,
j'imagine... Non, order in store, ce n'est pas chercher dans un magasin.
Ah oui, c'est vrai.
C'est commande en magasin, réception.
Non, l'objectif, c'est que ça soit le plus fluide D'accord. possible.
Oui, mais en revanche, donc, si elle fait un retour okay. en boutique de cette pièce-là, qu'est-ce qui se passe? Elle a le droit ou elle n'a pas le droit de faire un retour d'une exclu web en boutique?
Non, elle a droit.
Ouais,
okay. Bon, pour l'instant, on n'a pas énormément d'exclus web.
Ouais, hein, après, mais... ce que je vais dire, c'est que là, on est sur des points de détail. C'est que si vous avez 30% de taux de retour de 0,5% des volumes, ce n'est pas ça qui vous encombre les vendeuses en magasin. Ce n'est pas le sujet. Ouais.
Ou alors, elle est renvoyée directement via un chiffre home store sur une prochaine commande. Ouais. On sait que la pièce, elle est là. Une fois que le retour a été fait, on est capable de la localiser. Et donc, potentiellement, on peut se dire que c'est celle qu'on va vendre en priorité pour la faire repartir du magasin directement.
Je vais être timekeeper. Je suis désolée parce que la discussion est en train de se lancer. Est-ce que, éventuellement, vous voulez qu'on prenne une dernière question? Sinon, de toute façon, on a une petite pause. Donc, on peut aussi, devant un café, continuer la discussion avec grand plaisir. Voilà, vous avez encore un petit peu de temps. Si éventuellement, on peut prendre 2 minutes pour une dernière question. Ok, bon, bah, écoutez, merci pour votre participation.